Club Pharma sur Nutri Radio.
Club Pharma sur Nutri Radio, votre nouveau rendez-vous chaque semaine où on met les pharmacies à l'honneur, les officines, c'est bien normal. Hein. On a déjà Nutractu, chaque mois on revient sur les chiffres de la Nutra en officine. Là on va aller un peu plus loin en s'intéressant exclusivement aux pharmaciens, avec chaque semaine un intervenant différent pour évoquer un sujet en particulier. Ça peut être un pharmacien et ça peut être aussi un homme incontournable de la pharmacie qui reviendra chaque mois et on est très heureux de l'avoir. C'est David Cyr, directeur général de Gers Data. Bonjour David.
Bonjour Fabrice, ravi d'être avec vous.
Ah, ça fait longtemps qu'on vous chassait.
Ouais, c'est adorable. Bah, du coup, pourtant, Dieu sait qu'avec mon gros ventre, je suis facile à attraper. Hein.
Ah non, mais vous êtes partout, tout le monde vous veut. Dès qu'il y a des chiffres, dès qu'il y a de la data, on veut que vous nous donniez votre analyse. D'autant que vous avez la langue bien pendue. Et si les auditeurs ne vous connaissent pas, ils vont vous découvrir. Donc, Gers Data, c'est une entreprise spécialisée dans la collecte des données de santé en temps réel, en particulier en officine. C'est bien cela?
C'est tout à fait ça. On traite l'ensemble des données de santé, que ce soit l'officine, l'hôpital et également tout ce qui est professionnel de santé, médecin.
Bien.
Spécialiste.
Voilà, médecin spécialiste. Donc, on va pouvoir avoir beaucoup de chiffres et rebondir et avoir surtout votre expertise sur les chiffres que vous récoltez. Alors, l'officine, c'est un rôle crucial aujourd'hui. Le pharmacien, c'est un peu le héros des temps modernes, David.
Ah, la pharmacie, je vais dire, il y avait un avant-Covid et un après-Covid. Le Covid a complètement réenchanté l'image de la pharmacie pour tous les Français, c'est-à-dire aussi bien politique que la population. C'est la pharmacie est passée de juste pharmacie à docteur. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé son rôle, ça a changé son image, ça a changé ses missions. Et demain, ça changera son économie.
Alors, vous allez nous dire, d'ailleurs, au fil de ces émissions, comment la pharmacie va encore évoluer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a envie d'aller chez le pharmacien et de tout avoir. Vous voyez, ils ont de plus en plus de rôles à jouer. Il y a des missions nouvelles. Il y a des lois aussi qui leur imposent des nouvelles missions. Mais sur le marché de la pharmacie, combien de pharmacies en France aujourd'hui? Et comparé à il y a 10 ans, comment ce chiffre a évolué?
Eh bien, c'est vrai que la pharmacie, en 2023, pour la première fois, alors quand je parle de la pharmacie, je parle de France métropolitaine, non pas pour isoler les territoires, mais c'est vrai que c'est la première fois en 2023 que le nombre de pharmacies est passé sous les 20 000. On était à 19 966 en 2023. Pour vous donner le comparatif, 10 ans avant, on était quasiment à 22 000 pharmacies. Donc, on a vraiment je vais le dire avec mes images, mais une pente de ski, c'est-à-dire on avait une décroissance régulière du nombre de pharmacies, avec une accélération quand même l'année passée, puisqu'on avait une fermeture tous les jours ouvrés l'année passée, donc ce qui fait quasiment 300 fermetures. Alors quand on parle fermeture, on ne se trompe pas, c'est fermeture au sens physique du terme, ça comprend aussi bien les fermetures sans reprise ou les fusions de pharmacies, puisque parfois... deux pharmaciens ou deux pharmacies peuvent décider de fusionner et au final, ça fait une pharmacie physique de moins. Et donc, ce chiffre-là intègre l'évolution de ce réseau officinal.
Alors, comment on explique ça? Parce que d'un côté, on a le pharmacien qui a un rôle prépondérant dans la vie des Français. On a tous envie d'avoir une pharmacie pas très loin de chez nous. Donc, on aurait pu croire que le nombre de pharmacies allait augmenter. Et finalement, c'est l'érosion. On passe de 22 000 à 19 000. Et là, vous dites que quasiment tous les jours, il y a une pharmacie qui ferme.
Et pour moi, c'est le même sujet ou différent, mais le même sujet que celui des déserts médicaux. C'est aujourd'hui, il y a des contraintes où au final, il y a une législation qui dit que voilà, il faut X habitants pour avoir une pharmacie. Et donc, c'est des multiples du nombre d'habitants. Et le deuxième sujet, c'est comment on s'assure que les pharmacies sont réparties de manière homogène ou efficiente sur le territoire ou alchimique. C'est-à-dire que la question, au-delà du nombre de pharmacies, c'est qu'est-ce qu'on fait collectivement pour qu'elles soient là où on a besoin. C'est-à-dire qu'on puisse se dire, j'ai ma pharmacie à côté de chez moi, que je sois dans une grande ville, et là, effectivement, il y a une offre qui est, je vais dire, importante, mais aussi bien en campagne, où parfois la pharmacie est la plus proche et pas si proche que ça en temps de voiture.
Alors c'est difficile de bien uniformiser les pharmacies selon les territoires quand même.
C'est difficile parce qu'au final, chacun est libre de s'y installer. Et aujourd'hui, c'est comment on rend attractifs les territoires. qu'est-ce qui va faire aujourd'hui que la nouvelle génération de pharmaciens ait envie de s'installer, sachant que en termes de formation de pharmaciens, pour vous donner un exemple, on attend les chiffres de cette rentrée 2024, mais rentrée 2023, 500 places non pourvues en deuxième année de pharma. 2022, 1000 places non pourvues en deuxième année de pharma. Ça veut dire que quand bien même on mettrait plus de places pour former le pharmacien de demain, encore faut-il que toute la nouvelle génération ait envie de faire pharmacie. Donc on a un déficit d'attractivité de la jeune génération pour faire des études de pharmacien et qui se répercute dans un deuxième temps sur qui va vouloir s'installer dans des petites villes, dans des campagnes, où au final le seul professionnel de santé de la ville, du village, de la commune sera le pharmacien.
Merci David pour ce premier éclairage. On va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
Club Pharma sur Nutri Radio.
Chaque semaine dans Club Pharma, on revient sur la vie, l'actualité de l'officine de la pharmacie en France. Alors on a démarré cette émission évidemment par David Cyr qui sera là tous les mois pour revenir sur les chiffres, sur de la data, sur de l'analyse. On aura également aussi des pharmaciens hein, bien évidemment. Donc Gers Data, on rappelle que c'est une entreprise spécialisée dans la collecte de données de santé en temps réel. Et vous nous disiez juste avant la pause que, un, il y a un problème de répartition des pharmacies sur le territoire qui sont en recul, hein, les pharmacies d'ailleurs qui ferment. On était à 22 000 il y a quelques années, on est plus proche des 19 000, ça continue à fermer les officines. Ça c'est le point important. Le second point, c'est que la jeune génération, finalement le métier de pharmacien, ça la fait pas kiffer comme diraient mes enfants.
C'est, alors, je vais tempérer comme diraient les enfants. En fait, ils diraient c'est super bien en termes de santé, en termes de santé publique, en termes de nouvelles missions, en termes de rôle sociétal, en termes d'accompagnement de la population, en termes d'accessibilité. Et puis ça vous dirait, en tant que chef d'entreprise, c'est un cauchemar, tout ce qui est à gérer, toutes les contraintes, le sujet ressources humaines, le sujet stock, le sujet appro, le sujet trésorerie, le sujet finance, le sujet dynamique, le sujet patient.
Et le sujet,
donc, c'est problématique.
Ok, le sujet responsabilité aussi, parce que celle du pharmacien, elle est énorme, on est d'accord.
Tout à fait.
Bien, donc, la vie du pharmacien, quelque part, c'est intéressant, mais les contraintes liées aux responsabilités en tant que pharmacien, en termes de chef d'entreprise, ça, c'est plutôt effrayant. C'est ce que vous voulez dire? Il faudrait pouvoir améliorer ce volet-là?
Il faudrait trouver un compromis. Il faudrait trouver une balance. Alors, comme du coup, tu parlais des enfants, je vais te provoquer jusqu'au bout. En fait, on a deux couleurs qui se mélangent. On a le bleu et le jaune qui vont définir le vert de la pharmacie. Le bleu étant potentiellement, on pourrait dire, tout ce qui est nouvelle mission, tout ce qui est rôle, tout ce qui est accompagnement du patient, tout ce qui est prise en charge du patient en prévention et en curatif. Le jaune pourrait être effectivement la gestion de l'entreprise pharmacie, et il faut cette combinatoire pour que ça fasse la croix verte. Et quand je dis faire cette combinatoire, ça veut dire quoi derrière? Il faut qu'on puisse faire, et que la pharmacie puisse faire ce que la population et les pouvoirs publics attendent d'elle, en termes de santé publique, en termes de prise en charge de la population, sous contrainte ou sous réserve que l'économie de l'entreprise pharmacie soit réaliste et soit pérenne dans le temps. Et aujourd'hui, on joue encore avec ces couleurs et c'est pas le modèle économique est pas déterminé encore.
Alors pourtant, on a l'impression que le pharmacien, il se gave en vérité. Hein. Le pharmacien, à chaque fois qu'on parle, je vais exprès dans la provocation, mais on sait que les pharmaciens, on se dit, je vais prendre un petit peu des pincettes finalement par rapport à cette lancée sur
laquelle t'emballe pas.
Ouais. Voilà, je vais faire un step arrière, on respire. Grosso modo, on pourrait se dire que le pharmacien gagne bien sa vie. David, non, pas vraiment.
C'est, en fait, je vais le dire autrement, c'est probablement injuste. Pas injuste sur le fait qu'il gagne bien, c'est injuste dans la lecture qu'on va faire de la croissance de son chiffre d'affaires. De manière pragmatique, jusqu'à 2020, le chiffre d'affaires du réseau officinal, donc la totalité des pharmacies, c'était 36 milliards.
Oh, en France. Okay.
En France.
36 milliards
et c'était stable pendant 5-10 ans, c'était 36 milliards. Depuis 2020, et si je regarde les chiffres là, à fin juillet 2020 ou 2024, sur 12 mois, on a dépassé les 45 milliards. Pour autant, c'est pour ça que du coup, je te laisse pas poser la question, pour autant, la marge, elle suit pas la même vitesse que la croissance du chiffre d'affaires. Et donc, on a une économie qui fait quasiment 30% de croissance, et pour autant, on n'a pas la marge qui suit cette dynamique-là. Et ça, c'est porté principalement par les médicaments chers, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires d'une pharmacie ne veut absolument plus rien dire.
D'accord, effectivement, si on fait 70 000 milliards de chiffre d'affaires, mais qu'on a 71 000 milliards de dépenses, bon, vous avez compris, la gestion de l'entreprise, c'est catastrophique. Donc, les médicaments sont de plus en plus chers, en gros.
De plus en plus chers, de plus en plus techniques, de plus en plus de pathologies de niche, de pathologies complexes. Prenons des exemples. Aujourd'hui, il n'est pas rare, c'est pas fréquent non plus, mais qu'un patient ait un traitement à 50 000 euros par mois, ce qui fait en termes de chiffre d'affaires 600 000 euros par an. Et pour autant, la marge à la boîte, c'est 97,60 euros. Donc, ce qui veut dire que pour 600 000 euros de chiffre d'affaires, si je raisonne purement économie, gestion, je ne rentre pas dans le débat de savoir est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup, juste d'un point de vue lecture du business, lecture de son activité, lecture purement en contrôle de gestion, il y a 600 000 euros de chiffre d'affaires parce qu'il y a un patient qui vient et il y a 1 200 euros de marge en termes de délivrance. Et donc, la question, c'est comment je pilote, comment je suis ce chiffre d'affaires, la dynamique de ce chiffre d'affaires, sachant que potentiellement, bah, le patient peut aller ailleurs. Donc, ça ferait du coup un chiffre d'affaires en moins, mais un impact moindre sur la marge. Et potentiellement, je peux avoir une baisse de prix du médicament qui fait que bah demain, 600 000 euros se transforment en 400 000 ou en 300 000. Et donc, quand je vais regarder l'évolution de mon chiffre d'affaires, bah, du coup, il va descendre. Et je vais me dire, bah, tiens, mais est-ce que c'est parce que les prix des médicaments ont baissé? Est-ce que c'est parce que j'ai moins de trafic? Et donc, va se poser tout un flot de questions qui va complexifier le quotidien de la pharmacie de manière radicale.
Très bien, ça veut dire que le chiffre d'affaires, finalement, pour les pharmacies, c'est pas le premier critère à regarder, c'est pas le premier indicateur en réalité.
Bah, jusqu'à maintenant, c'était le premier indicateur. C'est tout le monde savait quel chiffre d'affaires il faisait et quelle était sa répartition par taux de TVA. 4 taux de TVA en France, si je mets de côté les nouvelles missions à TVA 0. Bon, voilà, médicaments de prescription remboursables, on est plutôt à 2,1. L'OTC au sens médicament de prescription médicale facultatif, 10%. Compléments alimentaires et certains dispositifs médicaux remboursables, 5,5. Et parapharmacie et certains dispositifs médicaux remboursables, TVA 20. Quand je regarde ça, et bien globalement, je peux me dire, bah tiens, j'ai perdu 20% sur la TVA 2,1. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que j'ai perdu du patient, j'ai perdu du trafic, ou tout simplement, la baisse des prix sur le médicament a fait que je peux faire des sauts périlleux en arrière, ça ne changera rien, le chiffre d'affaires va baisser.
On va marquer une dernière pause, merci hein, David pour ces explications. On marque une dernière pause et on revient sur un des volets que vous avez mentionné, là, c'est TVA 5,5 sur le complément alimentaire. C'est juste après ceci.
Club Pharma sur Nutri Radio.
Club Pharma sans Nutri Radio, votre nouvelle émission. Chaque semaine, on met à l'honneur la pharmacie, l'officine. Parfois, on va s'interroger aussi sur les data, les nouveaux rôles du pharmacien. Et chaque mois, on sera donc avec David Cyr, qui est le directeur général de Gers Data, entreprise spécialisée dans la collecte de données de santé en temps réel. Donc, si vous venez d'arriver, déjà, merci. Merci et restez avec nous. Cette émission sera en podcast à la fin de la semaine à partir de 18h. Comme ça, vous pourrez la réentendre dans son intégralité. Mais vous pouvez prendre le train en marche sans problème. On disait en gros que les pharmacies faisaient un chiffre d'affaires qui était incroyable, qui avait progressé sur un peu plus de 40 milliards d'euros par an. Vous me corrigez à tout moment, David, si je dis n'importe quoi, évidemment, mais pour autant...
Bah, quasi. Allez, je vais te provoquer jusqu'au bout pour une première. C'est 45 milliards.
Voilà, 45
milliards.
Sur les
12 derniers mois.
Et pourtant, il y a beaucoup moins de pharmacies qu'avant. Ça veut dire que le gâteau est plus grand, mais qu'il y a moins à se partager. Ce qui veut dire que le pharmacien, il se gave, mesdames, messieurs, mais il se gave. Il est là, il roule en limo. Il a un chauffeur privé. Non, parce que vous avez expliqué, évidemment, que les marges étaient... très faible, hein, qu'il ne faut pas confondre en chiffre d'affaires et la marge, en particulier donc sur le médicament. Donc, ce qui me vient au sujet suivant, quand on sait que sur les marges des médicaments est très faible, ça veut dire que le pharmacien, aujourd'hui, il doit développer de nouveaux postes, comme celui des compléments alimentaires qui pèsent de plus en plus, pour le coup, là, sur la marge.
Exactement. Il doit trouver, c'est pas pour être toujours d'accord avec toi, mais bon, pour une première, je vais faire un effort, il doit trouver quels sont les relais de croissance pour son officine ou ce qui va lui permettre une meilleure lecture ou une lecture éclairée de son activité. C'est vraiment de se dire quels sont les univers qui sont contributeurs à ma croissance. Est-ce que c'est le médicament? Si c'est pas le médicament, est-ce que c'est l'orthocompression? Est-ce que c'est la santé familiale? Est-ce que c'est la diététique? Est-ce que c'est la dermo? Et si c'est la diététique et les compléments alimentaires ou la santé familiale, c'est quels sont les segments qui sont porteurs? Et l'enjeu, il est là. C'est comment je fais en sorte que mon officine réponde au mieux aux besoins de la population.
En sachant que un pharmacien peut pas vendre tout et n'importe quoi, on peut pas aller acheter sa baguette chez le pharmacien. Il y a des contraintes sur les objets, les choses qu'on a le droit de vendre. Je vous dis ça précisément parce que certaines pharmacies commencent à vendre des bracelets de lithothérapie, par exemple.
La pharmacie, voilà, elle a cette aura en tant que professionnelle de santé. Elle a ce code poussé par le Conseil de l'Ordre, par les syndicats sur, voilà, une pharmacie doit être là pour accompagner sur la santé de la population avec un accompagnement fort sur le médicament, les dispositifs médicaux et aussi sur la dermocosmétique, la parapharmacie, les compléments alimentaires. Donc, elle a ce sujet de prendre en charge la santé des Français de manière à ce que ça réponde de plus en plus aux besoins de chacun des individus et que ça réponde aussi à la volonté. Certains voudront probablement du bio, d'autres voudront du vegan, d'autres voudront des probiotiques. Et donc l'enjeu, c'est voilà, comment j'améliore la lisibilité de l'ensemble de ces produits-là pour avoir le meilleur accompagnement possible. Et la différence demain sera effectivement les pharmacies qui apporteront le meilleur équilibre entre l'efficacité des produits qu'elles conseillent, la bonne tolérance, la simplicité et le prix substantiel avec la marge pour le réseau.
Donc, ça représente quoi aujourd'hui les compléments alimentaires? Donc, il y a deux postes et deux relais de croissance importants. Il y a ce poste complément alimentaire et puis il y a aussi un autre volet, le volet cosmétique.
Exactement. Aujourd'hui, si on regarde de manière pragmatique ce que pèse le statut, alors je vais faire une aparté parce que c'est amusant. La langue française, elle est riche sur plein de vocabulaire. Moi, je me rappelle à l'école, c'était un cauchemar, cette notion de vocabulaire, cette capacité à avoir des finesses, de changer les mots. Et pour autant, on va avoir un statut complément alimentaire qui est réglementaire. Et puis, on va avoir ce que la Vox Populi met dans les compléments alimentaires. Et on se rend compte que parfois, on peut avoir une discussion, et ce sera intéressant dans les prochains, à voir avec le pharmacien ce qu'il met dans les compléments alimentaires. Et je ne serais pas surpris que de temps en temps, ça soit des dispositifs médicaux par voie orale qui soient considérés par compléments alimentaires, parce que plus on vulgarise les propos, plus au final, on se retrouve dans ce sujet de savoir est-ce que c'est un vrai complément alimentaire ou tout simplement un DM par voie orale. Vas-y.
Non, j'allais changer de sujet, mais parce que je me dis, l'émission, elle file. On devait parler, on verra ça. La cosmétique, là, c'est pas du complément alimentaire, mais la cosmétique, c'est très complémentaire de cette fameuse nutraceutique, parce qu'il y a cette passerelle entre ce qu'on appelle maintenant la nutri-cosmétique. Bon, on met tout dans un panier commun?
Non, mais pas sur un panier commun, mais on met dans un courant de fond. Où effectivement, on va aller chercher de plus en plus de santé à travers le complément alimentaire, à travers la dermocosmétique. Tu parlais de nutraceutique, on peut parler de probiotiques, on peut parler de prébiotiques, on peut parler de postbiotiques, on peut parler de plein de terminologies qui fait que à un moment donné, on va aller encore plus loin dans la lecture. Et tu parlais de chiffres, 10%. Du chiffre d'affaires de la pharmacie, elle est portée par la cosmétique et les compléments alimentaires.
Bien, on va voir un peu comment ça va évoluer. Il faut qu'on évoque, ça c'est important, hein, les nouvelles missions du pharmacien, parce qu'aujourd'hui, le pharmacien, ce qu'il fait, c'est plus exactement la même chose qu'il y a 10 ou 20 ans.
Absolument pas. C'est où tu as absolument raison, c'est comme ça marche dans les deux sens. C'est vrai que dans ces nouvelles missions, il y a vraiment deux types de nouvelles missions. Depuis le Covid, la pharmacie a réouvert, a redémontré sa capacité d'adaptation. Cette capacité à réagir à l'offre et à la demande plutôt qu'à l'offre, à la demande de la population. Plus il y a de demande, plus le réseau officinal sait s'organiser. Le meilleur exemple à date, c'est la vaccination grippe. la vaccination grippe 2017, la pharmacie peut faire de la vaccination. Il n'y a pas grand monde qui en fait. C'est uniquement ceux qui, entre guillemets, avaient envie. Quelques années plus tard, pour ne pas dire 7-8 ans plus tard, la quasi-totalité des pharmacies fait de la vaccination. 60% de la vaccination grippe, elle est faite par le réseau officinal. Donc, on a cette capacité à absorber la demande. Et on le voit sur les nouvelles missions. Vaccin de rappel, 90% des pharmacies en font. Kit de dépistage colorectal, 90% des pharmacies. Et si vous prenez les toutes dernières missions qui sont arrivées cet été, trod angine et cystite, déjà en plein mois de juillet-août, en formation plus réalisation, 2/3 des pharmacies ont fait un trod cystite, angine, excusez-moi, et plus d'un quart a déjà fait la cystite. Cette capacité a vraiment absorbé le quotidien. Maintenant, on va voir dans une prochaine fois comment on fait pour développer des services qui vont nécessiter une offre plus forte. Qu'est-ce qui va faire que je vais parler de l'entretien femme enceinte à une patiente qui n'a pas pensé à me le demander? Qu'est-ce qui va faire que je vais proposer une prescription de vaccin à quelqu'un qui n'y a pas pensé pour aller chercher cette couverture vaccinale, aller chercher cette pénétration de ces nouvelles missions pour une meilleure couverture de la population?
Et alors, quand on pose des questions, parce que là, le pharmacien, il peut vacciner aujourd'hui, mais il peut aussi prescrire.
Bien sûr. Donc, vous prenez l'exemple de la vaccination, il peut prescrire et vacciner. 2/3 des pharmacies aujourd'hui prescrivent un vaccin et le vaccinent dans la foulée. C'est récent.
Et alors, sur ces postes-là, vaccination, bon, la prescription, c'est un peu un plus, ça entraîne la vaccination, mais sur ces postes-là, vaccination, est-ce qu'il y a un gros chiffre d'affaires du pharmacien? Est-ce qu'il y a une grosse marge à faire là-dessus?
Non. Aujourd'hui, on peut pas dire. J'ai dit non pour être pratico-pratique. Aujourd'hui, si vous prenez la marge commerciale faite par la pharmacie, on est à 0,3% de la marge sur le réseau officinal. Alors tout le monde en fait pas hein, des nouvelles missions, mais si vous regardez de manière absolue, on est à 0,3%. De la marge qui est faite par ces nouvelles missions. Si on se dit tout le monde en fait, on va être globalement aller à 1%, 1,5% de la marge. Donc la question est de se dire comment je fais ces nouvelles missions, et ça rejoint mon prisme de couleur de tout à l'heure, c'est comment je fais dans un quotidien très chargé pour les faire de manière naturelle, de manière à ce que ça soit quasiment ma meilleure carte de fidélité. Pour se dire que mes patients tout autour savent que chez moi, il y a une prise en charge complète de la population. Et donc, la rémunération ou la rentabilité passera aussi par des effets collatéraux, si vous voulez, de ces nouveaux services.
Et moi, quand vous me dites ça, je pense immédiatement à quelque chose, c'est que si le pharmacien veut que la population, le patient qui rentre, le client qui rentre, se fasse confiance à la prescription du pharmacien, à son conseil sur la vaccination, sur le complément alimentaire, ça passe par la formation. C'est-à-dire que là, les pharmaciens, ils doivent vraiment être aptes à répondre à toutes les questions, à rassurer, à être crédibles aussi.
Exactement. Mais tournons dans le positif. L'aura, ils l'ont. Aujourd'hui, la crédibilité, le réseau officinal là. L'enjeu, c'est comment on le maintient. C'est-à-dire, on ne va pas chercher cette crédibilité-là, on va chercher à la contenir, à la développer, de manière effectivement à aller plus loin. Et donc, c'est comment je mets en place de la part des industriels, des outils de formation, de manière à ce que ces outils-là soient utilisés par tout le monde. C'est-à-dire, la question, elle est, ça va vous faire rire, mais le sport, tout le monde dit le sport est bien pour la santé, etc. Et j'en suis convaincu, pourtant, à chaque fois le soir, je me dis, je vais faire du sport demain, et je vous assure, c'est jamais arrivé. Et donc, la question, elle est la même. Est-ce que tout le monde a envie de se former? La réponse, elle est oui. Qu'est-ce qu'il va faire en termes de format, en termes de contenu, faire en sorte que demain, effectivement, les formations, elles soient plus vite opérationnelles, actionnables et punchy, dans un contexte où l'équipe officinale doit penser à plein de choses dans le quotidien de la pharmacie. Il y a des patients onco, il y a des patients sportifs, il y a des patients âgés, il y a des patients jeunes. Donc, l'univers des possibles est très large, c'est la population, c'est le melting pot. Et qu'est-ce qui va faire que du coup, il y ait les réflexes sur quelque sujet que ce soit?
Ouais, ça, c'est vrai que c'est très important et c'est pas simple, hein, parce que tout le monde cherche la recette magique, on va dire, pour justement passer à l'action. Quel type de formation aujourd'hui un pharmacien a le plus besoin?
Oh. Aujourd'hui, alors, on va différencier le pharmacien et son équipe. C'est, au final, je pense qu'il y a plein de segments dans son quotidien où les formations, peut dire scolaires, n'ont pas répondu. La gestion de l'entreprise, la gestion humaine, la gestion des achats, la gestion de la logistique, et j'en passe, et des meilleurs. Après, pour les équipes, c'est qu'est-ce qu'on va faire que sur l'orthocompression, on va être beaucoup plus pertinent dans l'accompagnement. Qu'est-ce qui fait que du coup, je vais pouvoir aller chercher en fonction de la demande du patient, du conseil associé sur du probiotique, sur la nutraceutique, sur de la dermo, être complètement à l'aise avec les sujets pour pouvoir faire au moins ce qu'on pourrait appeler dans les call centers le premier niveau. Tout le monde ne peut pas être expert sur tous les sujets. Vous ne pouvez pas être un expert en aroma, en phyto, en gémothérapie, en probio, en complément. Enfin, c'est ultra compliqué d'être bon partout, des décathloniens. Par contre, se dire, j'ai le premier vernis et ensuite j'ai la capacité à avoir des référents pour des consommateurs ou des patients qui ont besoin d'un niveau plus complexe, un accompagnement plus poussé, bah, du coup... c'est le reste de l'équipe qui s'en occupe.
Bien, et alors, on pourrait se dire que face à toutes ces nouvelles missions, le pharmacien qui a de moins en moins de temps, on pourrait se dire que c'est bon, la pharmacie va être un lieu de recrutement, non ?
Pour cela, et je rejoins sur l'autre couleur, la jaune que j'évoquais, vraiment ça m'a amusé, ces couleurs, c'est toi qui m'inspirais, mais c'est comment je fais, au-delà du recrutement, pour que mon entreprise pharmacie soit rentable ? Et donc la question, c'est ces nouvelles missions, elles prennent du temps. Prendre soin du consommateur ou du patient, ça prend du temps. Et donc ce temps-là, comment on fait en sorte pour qu'il ne déstabilise pas l'ensemble de l'économie de la pharmacie ? Et c'est en ça où ça pose question. C'est est-ce que les nouvelles missions sont attractives pour les pharmaciens, pour la nouvelle génération, pour toute la population ? La réponse, elle est oui, assurément. Par contre, comment on fait en sorte que ça rentre dans un format de l'officine pour que du coup elle, son business model, puisque ça reste une entreprise, reste rentable, là effectivement c'est la question. Et donc ça c'est tout simple, le temps qu'on passe à faire ces nouvelles missions, ça veut dire qu'il faut déléguer d'autres missions. Il faut que la pharmacie là, accepte qu'elle ne peut pas être elle non plus expert sur tous les segments que j'évoquais tout à l'heure, et donc trouver des accords, trouver des partenaires pour que un certain nombre de sujets puissent être délégués, sinon elle finira comme un pop-corn et du coup elle explosera.
Par exemple, avec des naturopathes qui viendraient en pharmacie ou des personnes qui, pour expliquer ce qu'est, il y a des pharmacies hein, qui font ça, des grandes pharmacies.
Exactement. Ben oui, c'est des naturopathes, de la gestion de la logistique, de la gestion de la formation, de l'accompagnement sur le traitement de la data. Tous ces scopes-là, c'est d'accepter de dire je documente tout ce que j'ai à faire. Et du coup, qu'est-ce que je peux déléguer parce que ces nouvelles missions donnent du sens à mon quotidien, donnent du sens aux populations. Par contre, elles nécessitent du temps et ce temps-là, je dois le rendre le plus efficient possible.
Alors, dernière question, à quoi ressemble ce pharmacien 3.0 selon vous de demain ? À quoi il ressemblera en sachant qu'on a un peu de mal à séduire voilà, cette nouvelle génération, comme vous l'avez dit en début d'émission. À quoi il ressemblera ce pharmacien 3.0 ?
C'est vraiment une question délicate. Ce qu'on remarque d'ores et déjà, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus un équilibre entre commercialité et santé. C'est une pharmacie est un lieu de prise en charge dans lequel on est capable de s'interroger et d'interroger sur sa santé et sur ce qu'on doit faire, un peu le premier recours au sens large du terme, que ce soit prévention ou suivi, mais également être source de découverte de nouveaux produits, de découverte de nouvelles manières de soigner. Je prenais le solaire, on a un premier contributeur à la croissance, c'est l'Estic. Donc voilà, il y a 2-3 ans, on n'avait quasiment pas de stick sur le marché pour le solaire. Donc c'est à la fois ouvert, un peu un lieu de découverte sur toutes les innovations autour de la santé et un lieu de prévention et de prise en charge du quotidien du patient.
Bien, merci beaucoup David Cyr. On va vous retrouver le mois prochain. Il y a beaucoup de sujets. Hein. Je me rends compte là maintenant en ayant fait cette première émission avec vous qu'on n'a pas fini. Il y a énormément de sujets à voir dans cette émission, le Club Pharma sur Nutri Radio. Et donc on a hâte de vous retrouver le mois prochain. On rappelle que vous êtes évidemment le directeur général de Gers Data, qui est une entreprise spécialisée dans la collecte de data en temps réel. Bon, eh bien écoutez, ça s'est bien passé cette première, vous êtes content ?
Bah écoutez, j'étais ravi, c'était vraiment un exercice difficile et je vous remercie Fabrice de m'accompagner dans cet exercice délicat.
Je pense que vous êtes une pépite, que votre fin de saison sur Nutri Radio, vous allez voir. Je pense que David, c'est un personnage à suivre qui va m'envoyer dans les cordes 2-3 fois dans l'année et ça me fera du bien. Bon, mais merci beaucoup David, on se retrouve cette émission Club Pharma à partir de 18h ce dimanche en podcast si vous venez d'arriver et donc on se retrouve avec un autre invité la semaine prochaine. Merci, tiens, David, la semaine prochaine ce sera un pharmacien qui sera à votre place. Quelle question pertinente je devrais lui poser pour le mettre un peu en difficulté ? On est toujours en toute bienveillance, évidemment.
Quelle place il donne à ses nouvelles missions dans le quotidien de sa pharmacie ?
Excellent ! Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour avoir la réponse. Merci beaucoup, David !
Merci beaucoup, Fabrice, à bientôt.
Le retour de la musique, c'est tout de suite sur Nutri Radio. Reste avec nous !
Club Pharma sur Nutri Radio.